Donc, si vous voulez, nous allons commencer cette seconde soirée connexion du cycle que nous avons entamé la rentrée. Cycle sur le thème de la langue, de délier les langues, qui est organisé donc par le COE, Commission d'orientation épistémique de notre école. Et nous avons ce soir le plaisir de recevoir Nicolas Bouchot. Je vais donc laisser la parole à Philippe Madet, qui est donc collègue de Bordeaux, qui a récemment organisé une forme de cartel, une journée assez remarquable sur l'éveil du printemps de Wedekind à Bordeaux. Et donc, je lui laisse le soin, puisqu'il participe ce soir à notre soirée, de présenter Nicolas Bouchot et son travail. Je lui passe la parole. Merci.
Bon, c'est une soirée dite connexion. Connexion, donc, pour dire les liens, l'intention de ce séminaire, de faire des liens avec d'autres champs. Faire des liens, on pourrait peut-être dire d'ailleurs, créer des méridiens entre la psychanalyse et d'autres champs, entre des psychanalyses, des analysants et d'autres qui peuvent avoir une expérience, bien sûr, de la psychanalyse, mais pas forcément, mais surtout qui ont une pratique et une expérience qui nous intéresse évidemment beaucoup, qui est celle de la langue et de la parole. Donc, ce qui est le cas de Nicolas Bouchot. Alors, ce séminaire Délier les langues, qui a lieu donc toute l'année, la fois précédente, c'était Jacques Drian qui avait été invité, et la fois prochaine, ce sera Xavier Delaporte. Et Délier les langues, on peut l'entendre de différentes manières. Ça dit quelque chose de l'embarras dans lequel nous met le langage, évidemment. Délier, ça suppose qu'il y a quelque chose qui pourrait être figé, fixé. Et délier les langues, on peut l'entendre aussi comme une invitation qui nous est faite de prendre la parole. Alors nous, on a bien sûr des questions à poser à Nicolas Bouchot, mais vous aurez la parole également. Alors, on s'était posé la question de comment le présenter, acteur ou comédien. Il se trouve qu'il fait du théâtre, il se trouve qu'il joue au cinéma, donc les deux termes lui conviennent si on les prend dans le sens un peu commun de ces termes, c'est-à-dire que le comédien plutôt du côté du théâtre, l'acteur plutôt du côté du cinéma. Mais on s'est dit, c'était Vicky qui avait eu cette réflexion, qu'au fond, acteur était peut-être le terme qui lui convenait le mieux, tant la question de l'acte, pour lui, nous semble très intense. L'acte dans le choix de ses textes, l'acte dans ses décisions de les mettre en jeu, et puis aussi l'acte de parler, le fait de dire, je pense qu'on en parlera avec lui. Alors, on a beaucoup de chance qu'il soit là, parce qu'il a une actualité très occupée. Vous pouvez aller le voir au Théâtre du Rond-Point en ce moment, c'est jusque fin décembre. Il a mis la barre là très haut avec un spectacle à partir, je ne sais pas si on dirait un spectacle d'ailleurs, je me suis posé la question, spectacle, monologue, voilà. Bon, je vais dire un spectacle. Voilà, une représentation, voilà. Il a mis la barre très haut, donc avec une présentation. Oui. Bon, donc il y en a qui l'ont vu. Effectivement, c'est un enchantement. Le Méridien de Paul Celan, si vous connaissez ce texte, c'est assez ardu à la première lecture, même à la deuxième, hein, je dois dire. Et donc voilà, c'est un défi de mettre de faire cette adaptation. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, parmi les auteurs sinon qu'il a joué, ce sont toujours des auteurs de grand renom. Je ne vais pas tous vous les citer. Il a fait aussi de la mise en scène. Hein, donc on peut dire que c'est un artiste complet et je pense aussi généreux. Parce qu'en dehors du fait qu'il est très, très occupé par le théâtre en ce moment, il est aussi très demandé pour des rencontres, pour des interviews. Et ça nous intéresse également parce que je crois qu'il a une préoccupation de la transmission. Alors, ça nous intéresse, parce que la question de la transmission, évidemment, nous, qu'est-ce qu'on transmet? Comment on transmet quelque chose de la psychanalyse? Comment on transmet quelque chose du désir de l'analyste? Et il est, lui, tout à fait engagé là-dedans. Les metteurs en scène qui l'ont accompagné, il y en a plusieurs. Il y a eu Didier-Georges Gabilly, Jean-François Civadier, qui a mis il n'y a pas très longtemps en scène le Misanthrope, il jouait le rôle d'Alceste. Et vous allez retravailler encore avec lui sur un projet de mise en scène de Don Juan dans les mois qui viennent. Je crois que c'est à Rennes. Voilà. Et puis, il y a Éric Didry, un compagnon de route avec qui il a travaillé plusieurs fois et qui a eu, je dirais, ce culot avec lui donc de mettre en scène cette adaptation. Donc, je vais démarrer par une première question, et puis donc Claude Léger, Vicky Esteves, David en ont également, et puis bien sûr vous pourrez poser des questions. Je vous celui-là marche. Sinon se passera celui-là.
Celui-là il marche, oui, il marche.
Voilà. Alors, une première question qui concerne plutôt donc votre métier d'acteur en général. J'ai pensé à cette question parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un acteur me dire, au fond, je ne fais que dire la parole des autres. Et je me suis dit que pour vous, c'était en fait autre chose. Même si vous dites la parole d'un autre, vous ne faites pas que dire la parole d'un autre. Et je crois qu'il y a chez vous cette idée, pas seulement de dire, mais de prendre la parole. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Comment vous voyez ce métier d'acteur? Question vaste.
Oui, vaste. Enfin, vaste. Non, sur la question de... Je dis la parole des autres, il disait.
C'est ça, il me disait, je ne fais que dire la parole des autres. C'est-à-dire que c'est comme si, au fond, il n'y était pas tout à fait, et qu'au fond... Je crois que pour vous, en fait, quand vous dites un texte, en tout cas quand j'ai vu donc le spectacle là au rond-point, il y a aussi votre parole d'une certaine manière.
Alors, je dirais que pendant assez longtemps, moi, je, quand on me disait c'est quoi pour vous être acteur, j'avais ce mot qui me venait tout le temps, c'était passeur. Je suis un passeur. Alors j'avais emprunté ce mot à un critique de cinéma qui s'appelait Serge Danet, qui se disait lui-même passeur puisqu'il était entre l'œuvre et le public. Et donc je me disais, j'aime bien cette position d'acteur passeur. Bon. Et là, je pouvais encore me dire à cette époque, mais au fond, je dis un texte qui n'est pas le mien. Mmh. Et puis en grandissant, en travaillant, en cheminant, ben aujourd'hui, je ne dirais pas ça, effectivement. Je dirais que même avec un texte classique du répertoire, comme on dit, eh bien, je crois que la notion d'interprétation, elle se loge dans le dialogue qu'on a avec un texte. Un dialogue secret. Là, je pense au moment où on joue des personnages, on va dire, connus. Enfin, oui, quand on joue le roi Lear, quand on joue Alceste ou Galilée ou des personnages comme ça, qui sont des textes de théâtre, donc écrits pour le théâtre, et chez Brecht même écrits pour faire réfléchir tout le monde, pour poser des questions, et bien même là, on est dans l'interprétation en dialogue avec ses rôles. Alors après, il y a une autre strate du travail d'acteur qui consiste à, comment on pourrait appeler ça ? Comment trouver la nécessité de la parole? Comment trouver la nécessité de dire? Comment, on pourrait dire, moi je dis souvent aux jeunes acteurs, le premier événement sur un plateau, la chose la plus émouvante sur un plateau, c'est comment naît la parole? Comment arrive la parole? Quand on dit ça, on dit aussi, on n'imite pas, on représente pas. On est dans l'acte, là je parle d'où j'en suis aujourd'hui, on est dans l'acte de cette naissance de la parole et sans masquer cette émotion première c'est quelqu'un arrive sur un plateau devant d'autres qui sont là et il parle, ça parle, je dirais, ça parle. Je dis ça parle parce qu'en plus, dans cette parole qui arrive, quand on la joue, il ne faut pas non plus trop qu'on la qualifie. C'est-à-dire que très vite, on s'aperçoit que le sens, ce n'est pas tellement notre problème. Je dis ces choses-là en étant tout à fait conscient que pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'acteurs, le travail n'est pas là. Globalement, si on demande à des acteurs comment ça se passe, il y a toujours l'identification à un personnage, le parcours d'un personnage, etc., etc. Bon, moi, comme vous disiez, j'ai commencé avec quelqu'un qui s'appelait Didier-Georges Gabilly, et on a beaucoup commencé à travailler. On avait 25 ans, moi j'avais 25 ans, et comme disait Antoine Vitesse, on a fait les pieds au mur, c'est-à-dire qu'on prenait un texte et on le déconstruisait. Alors ça donnait des choses extrêmement formelles, tout le monde psalmodiait, on faisait aucun point, aucune virgule, et on arrêtait le texte quand on avait besoin de respirer, puis on le reprenait quand ça pouvait. Donc il y avait une distorsion, je dirais, de la syntaxe ou des choses comme ça. Et c'était à l'époque, quand j'ai commencé à faire du théâtre, l'endroit absolu où je voulais être pour faire du théâtre, sinon je n'aurais pas fait. Moi, ma hantise, c'était de dépendre du désir des autres. Donc, de ce qu'on appelle les metteurs en scène, ou bon, j'avais très peur de ça. Et donc, très vite, j'ai trouvé cet endroit avec Didier-Georges Gabilly, qui était à l'époque un groupe qui s'appelait le groupe Chang, qui était vraiment, c'était du théâtre, comme on dit, underground, où on faisait vraiment les pieds au mur. Et quand on faisait les spectacles, moi j'adorais ça à l'époque. Bon, maintenant je suis un peu plus vieux, donc ça me gêne un peu plus. Mais à l'époque, la moitié de la salle sortait. Et à la fin du spectacle, la moitié des gens huaient et la moitié des autres applaudissaient en disant c'est génial. Et les autres disaient c'est de la merde. C'était extrêmement clivé, quoi. Bon, je trouve ça toujours formidable de commencer des métiers comme ça, dans ces ambiances-là. Voilà. Parce qu'on se dit, on essaiera de jamais oublier qu'à une époque, on a aimé faire quelque chose qui n'était pas évident pour les gens et où il y avait voilà. Et donc, avec ce metteur en scène, Didier-Georges Gabilly, qui avait 10 ans de plus que nous tous, voilà, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup amusé, je dirais, à déstructurer la langue. Voilà. Mais c'est avec lui que je me suis dit très vite, de toute façon, au théâtre, on pourrait dire, le texte, c'est un acte. C'est-à-dire, le texte n'est pas ce qui vient commenter une psychologie, ou le texte n'est pas ce qui vient raconter un état d'âme. Le texte est tout ça. Et la difficulté, c'est de le donner comme ça. Donc, c'est de le donner sans a priori. C'est de le donner, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a un dialogue secret de soi avec le texte, voilà. Interpréter un personnage, c'est pas être ou imiter le personnage, c'est être soi en dialogue avec le personnage et montrer ce dialogue, et le faire entendre aux gens. Voilà. Mais je dis la première émotion. C'est comment arrive la parole sur un plateau. Et je pensais beaucoup en préparant ce spectacle, donc, d'après le texte de Paul Celan. J'imaginais ce poète, Paul Celan, en 1960 en Allemagne, poète juif de langue allemande, recevant le prix Büchner de la part des Allemands, devant 400 personnes, à peu près tous nazis, hein, ou ayant en tout cas collaboré avec. À l'époque, la Shoah n'existe pas. Et lui, il monte sur scène. Et il y a un mot très important pour Celan dans ses poèmes, c'est « stehen », c'est « tenir debout ». Et je trouvais que c'était une très belle définition de l'acteur, aussi. C'est-à-dire, j'arrive, et il y a cette question que je trouve géniale, qui est une question à laquelle je pensais tout le temps quand je jouais le roi Lear, par exemple, c'est qu'est-ce que je fous là devant vous ? Et si on arrive à continuer à tendre ce film de qu'est-ce que je fais là devant vous pendant 4 heures de spectacle, tout en disant ces répliques, tout en parlant, tout en jouant des citations, etc., des situations, ben voilà, on est toujours dans ce rapport premier, réel, de moi devant vous, j'ai pris la parole.
Ce qui fait que c'est aussi un dialogue avec le public. C'est un dialogue pour vous avec le texte, mais il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, non ?
Absolument. Que je suis, que j'ai beaucoup expérimenté dans les 3 spectacles que j'ai fait tout seul, puisque je suis pas tout seul en fait, puisque je parle aux gens. Il y a une adresse directe. Il y a, comme on dit, il n'y a pas de quatrième mur. On dit au quatrième mur au théâtre quand il y a comme un écran. Et puis les acteurs se parlent de profil, et puis nous, public, nous assistons à quelque chose. Voilà. Donc dans les spectacles que je fais tout seul, il n'y a pas du tout de quatrième mur, donc il y a une adresse aux gens. On s'aperçoit en travaillant que l'adresse, il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliards, et il y a une façon de s'adresser à un public de façon directe, mais il y a aussi une façon indirecte. C'est-à-dire que ce dialogue avec les gens... j'aime bien dire qu'il est parfois secret. C'est-à-dire que on sait très bien que quand on est comme ça seul sur un plateau et qu'on s'adresse à un public, les gens ne vont pas entendre tous la même chose. Mais voilà, on est ensemble et on avance pas à pas. Voilà, ça c'est très très important pour les spectacles que je fais tout seul, qui sont des spectacles donc qui ne parlent pas de textes théâtraux, c'est très important. Donc, c'est des textes comme le texte de Solan ou comme le spectacle sur Serge Danet, sur le cinéma que j'avais fait. C'est des textes qui sont des textes de critique, en fait. Voilà. C'est de la pensée critique, on va dire. Donc, comment on joue la pensée critique ? C'est ça le truc. C'est là où on revient à la langue. C'est-à-dire qu'on ne joue pas la pensée critique. Il n'y a rien à jouer. Il n'y a rien à... Je ne sais pas quoi, il y a juste à mettre en route la pensée. Mettre en route la pensée. Je reviens à cette histoire de qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est que cette première émotion qui est la parole. Mettre en route la pensée, c'est, voilà, comment dire. Des fois, je dis, il faut sculpter la langue, quoi. Alors, il y a des auteurs de théâtre qui sont pour ça formidables. C'est Claudel, par exemple. On lit Claudel. Si on le lit comme on va tous le lire la première fois qu'on le lit, un peu naturel, ou un peu... Je vous parle. Voilà. Bon, alors Claudel, ça ne marche pas du tout au début. On se dit, c'est pas possible, on ne peut pas jouer comme ça. Alors comment on fait ? Bon, ben voilà. Avec Claudel, on entend très bien ça. C'est-à-dire, quand je dis sculpter la parole, c'est-à-dire, souvent, je dis aux jeunes acteurs, ça a l'air abstrait, mais c'est pas... Mettez la langue devant vous. La langue joue pour vous. Le premier metteur en scène, là je parle des textes de théâtre, c'est l'écrivain, enfin c'est l'écriture, c'est la langue, c'est comment les mots cheminent, voilà. Donc sculpter la parole dans l'espace, c'est ça, c'est en fait, des fois je dis aux acteurs, soulever la parole, soulever la phrase, juste soulever la phrase. Parce que, et ça, c'est Célan qui nous donne une autre piste là-dessus. C'est comment faire pour que la parole devienne sonore. Ça, c'est très important. Parce qu'on s'aperçoit au théâtre qu'on peut jouer, bien jouer, etc. Si on joue le sens, si on est dans le sens, et si on a bien fait son point, et si on est juste, comme on dit, si on parle pas faux, bon, ça va. Mais... souvent, on n'entend rien. Pour entendre, il faut rendre la parole sonore. Alors, comment on fait pour rendre la parole sonore ? On voit bien qu'on n'est plus du tout dans une affaire de sens, on n'est même plus dans une affaire de d'articulation de la pensée, on est dans une affaire de haut, bas, de quelle respiration, on est dans une affaire de rythme, on est dans une affaire de pulsation, on est dans une affaire... Voilà, la langue, c'est de la matière. Et d'ailleurs, très souvent, c'est tout mon problème en ce moment sur Donjon de Molière. J'ai beaucoup de mal à répéter, à commencer à rentrer dans le texte si je ne comprends pas presque, je dirais, l'état physique de l'auteur au moment où il écrit la pièce. Ou même si c'est pas son réel état physique, mais disons, on sait que Molière a écrit Don Juan parce que à cause de l'interdiction du Tartuffe, donc on imagine qu'il y a une espèce de pulsion dans cette pièce. Bon, voilà. J'ai besoin d'approcher les textes comme ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que je ne les approche jamais par ce qu'on appellerait le personnage. Il n'est d'ailleurs que très rarement un personnage, puisqu'on sait bien que beaucoup, beaucoup de pièces au théâtre sont des, comme on dit, manteaux d'Arlequin, c'est-à-dire des textes qui sont faits eux-mêmes de plein, plein, plein d'autres textes. Alors ça, je dirais, c'est une autre chose qui m'a beaucoup appris le travail que j'ai fait sur le spectacle tout seul, sur la pensée critique, c'est que l'écriture, c'est un jeu, J-E-U, c'est un grand jeu. Et que la langue, c'est un jeu, J-E-U. Et que dès qu'on attrape ça sur le plateau, voilà où arrive le jeu. Voilà comment on peut jouer. Voilà comment on peut s'amuser avec un texte. Même si c'est enfin, je vais peut-être un peu loin là, mais j'allais dire même si c'est du Heidegger, mais... On a fait avec Nicolas Truong et Judith Henry un texte où c'était que des textes de philo, le projet Luciole, d'après le livre de Georges Didier Huberman, Survivance des Lucioles. Vraiment, il y avait des auteurs, par exemple Jacques Rancière, pour ne pas le nommer, que j'aime énormément, je me disais, on ne peut pas le lire, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de style. Mmh. Il y a ça aussi, hein, parce que les textes, c'est aussi du rythme, c'est aussi un style et tout ça. Bon. Et puis si, on peut. On peut, quand on a confiance dans cette chose, que, par exemple, ces pensées de ces philosophes, c'est aussi du corps. C'est le corps de la parole, quoi, je dirais, qu'il faut... Mmh.
Est-ce que vous aviez pu dire dans une interview que dans le théâtre, ce que vous avez trouvé, enfin là, vous êtes tombé aussi dans le théâtre, c'est quand vous avez saisi que ce n'était pas uniquement une histoire d'idées, mais de corps.
Complètement. Et c'est-à-dire qu'au théâtre, il y a toujours cette chose... qui est un peu violente parfois, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir en dehors du plateau. Alors ça, au théâtre, on est les rois de réfléchir en dehors du plateau, à la table, et dès qu'on arrive sur le plateau, c'est un autre monde. C'est à tel point que des fois, quand on met en scène des acteurs, on va beaucoup plus vite que les acteurs. C'est-à-dire qu'on dit, mais je comprends pas, comment ça se fait? Il n'arrive pas à le faire. Et quand on est sur le plateau, on est comme un enfant. Et on est aussi comme une tortue. C'est-à-dire qu'on est très lent. Parce que sur le plateau, on peut comprendre quelque chose. Mais pour que cette chose-là passe dans le corps, il faut des semaines. Voilà. Voire des mois. Pour que ça ait une action réelle. Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Parce qu'on était parti sur un truc.
Je me promets, est-ce que vous aviez pu dire dans une interview que vous aviez été saisi par le fait que le théâtre, ce n'était pas seulement transmettre des idées, mais c'était aussi une expérience de corps.
C'est-à-dire que pour transmettre des idées... Là, alors, moi, je dirais le geste de transmission au théâtre passe d'abord par le corps. Voilà. Passe d'abord par le corps... Et en espérant qu'on arrive à ouvrir chez les auditeurs, chez les spectateurs, un désir de penser, un désir d'être attentif. C'est-à-dire que la parole, je pourrais dire ça autrement, et par exemple, j'ai beaucoup expérimenté dans Galilée, parce que Brecht écrit Galilée comme quelqu'un qui non seulement est un grand savant, donc fait des découvertes fondamentales, et il a raison. Mais le grand génie de Brecht, c'est d'avoir compris que Galilée, pour que ses idées passent, avait besoin de mettre en scène sa parole. De mettre en scène sa parole. Donc, effectivement, de lui donner pour qu'elle devienne sonore, justement. Pour qu'elle touche quelque part. Puisque ce qu'il disait, qui est maintenant pour nous, la vérité, ne l'était pas. Donc ça passait pas au niveau des idées. Donc voilà. Et je dirais un acteur, et d'ailleurs, plus je joue, plus je pense ça, et surtout le spectacle que je joue en ce moment, Je crois que dans une représentation, je travaille autant à, évidemment, dire le texte, mais à créer en même temps les conditions d'écoute du texte. C'est-à-dire que ce qui est le plus... le gros travail, en fait, que je fais, c'est ça. Et ça, c'est invisible, je dirais. Créer les conditions d'écoute d'un texte. C'est-à-dire, pendant que je dis le texte, j'essaye de construire pour tout le monde, voilà, une attention. Donc, je sais pas si c'est clair, hein, mais...
Une attention qui vous a fallu déjà pour choisir le texte, en fait. Parce que comment on choisit un texte comme Le Méridien, qui a priori est quand même assez complexe, c'est justement pas le sens qui fait que... Enfin, je sais pas. Hein, je...
C'est un texte, je l'ai lu la première fois, je me suis dit qu'il faudrait faire un jour quelque chose au théâtre avec, c'était en 2002. Disons que moi, mon entrée dans le texte de Celan, à l'époque, je connaissais peu les poésies de Celan et pas sa vie. Donc, je ne savais pas, par exemple, que sa poésie prend pour point de départ la Shoah, comme point de départ. Et qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans ce texte ? Eh bien, tout simplement, c'était là, on va dire, c'est un peu l'art poétique de Celan. Eh bien, pour moi, c'était comme un art de l'acteur, c'est-à-dire tout ce qu'il disait sur le poème, tout ce qu'il disait sur le poème. Pour moi, c'était comme une indication de jeu. C'est-à-dire, par exemple, il dit la parole va de son déjà plus dans son toujours encore. Alors, je crois que ça vient un peu de Heidegger, ou je sais pas, parce qu'il a beaucoup lu Heidegger, Adorno. La parole va de son déjà plus dans son toujours encore. Pour moi, c'était très concret, parce que si on réfléchit un peu, quand on est sur un plateau, quand on joue sur un plateau, on dit un texte, au moment où on le dit, c'est déjà fini. Il y a une espèce de deuil à chaque fois de chaque mot qui viennent de passer, mais on est toujours pointé vers quelque chose à venir. Hein. Que Celan lui appelle l'utopie, c'est-à-dire le lieu sans lieu, hein, le lieu sans lieu de la langue, le lieu sans lieu du poème, en fait. Je dirais ça, par exemple, le lieu sans lieu de la langue, le lieu sans lieu du poème. Voilà, je trouve que ça aussi, c'est des très belles définitions pour l'acteur. Alors bon, c'est un peu poétique, mais en même temps, il y a des choses très concrètes. Il disait beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Alors, à chaque fois que je dis ça, je ne me rappelle jamais exactement. Mais, évidemment, ce que dit Celan sur le souffle. Hein, sur le... Personne ne peut dire combien de temps va durer la pause que marque le souffle. Je crois que ce que j'entends de ce que dit Celan sur le souffle, c'est que l'humain arrive dans le souffle. Pas dans les mots. Dans le souffle. Dans les pauses, entre. Dans les pauses entre quelque chose comme ça, hein, que lui travaille. Évidemment, c'est des indications pour les acteurs. Je ne peux pas trouver de truc plus concret que ça, quoi. Donc, je voyais dans ce livre que ça, comme si quelqu'un, un metteur en scène, je sais pas, il y avait un grand metteur en scène qui s'appelait Klaus Michael Gruber. Lui, il parlait comme ça aux acteurs. Il leur disait trois trucs dans la journée, c'est tout. Ils répétaient quatre heures, les acteurs étaient complètement terrifiés. Ils avançaient la première de une semaine pour mettre les acteurs dans une position. Voilà. Et il leur parlait comme ça, avec des formules, comme ça, un peu poétique, un peu magique. Et tout. Et je retrouvais beaucoup ça dans la conférence de Celan, quand il parle du poème.
Du souffle et de la renverse du souffle, ce moment où...
Et il dit cette chose aussi très belle, c'est-à-dire que il y a aussi dans le travail de l'acteur on recherche une espèce de singularité, je dirais. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller à chaque fois au plus loin de soi, enfin de ce qu'on peut offrir de singulier. Et y a ça chez Celan quand il dit le poème, en fait, la poésie, c'est le souffle coupé de l'art. Voilà. La poésie, c'est le souffle coupé de l'art. Hein, puisqu'il oppose l'art et la poésie. Ce qui est un peu étrange.
Oui.
En fait, non. Lui, il les oppose. L'art, c'est l'art. L'art, quoi. L'art avec un grand A, l'art. Il dit, Celan, moi, je peux vous faire un petit quatrain, là, rimé. Hop, c'est de l'art. Un petit truc, si vous voulez, c'est de l'art. Et la poésie, c'est pas ça. La poésie, c'est autre chose. Et ça met en jeu, alors ça c'est selon qui parle, ça met en jeu l'humain, hein, et il y va même de sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, ça rigole pas, quoi. On rigole pas avec la poésie. Et c'est le souffle coupé de l'art, quoi. C'est le pas de côté, c'est le dégagement, il dit, c'est le dégagement.
C'est ça. Il parle du dégagement du jeu, parce que ce qu'il dit là,
Oui, complètement. La première apparition de la... Bon, parce que selon, il fait des milliards de choses dans ce texte. Par exemple, il fait une chose, il commande Büchner. C'est-à-dire qu'il a une parole critique sur Büchner. Géniale, créatrice, en fait. On parlait tout à l'heure de la pensée critique et tout ça. Elle peut être créatrice. Et là, il crée un truc incroyable. Il voit chez Büchner, à la fin de la mort de Danton, Lucile Desmoulins, la femme de Camille Desmoulins, donc qui vient de voir Camille se faire décapiter. Donc elle est désemparée, elle est sur la place de la Révolution, elle chante une petite chanson, elle dit « Oh mon Camille !» Et tout d'un coup, elle dit « Vive le roi !» Et là, une patrouille de républicains arrive et l'emmène, évidemment, et la tue. Enfin, historiquement, elle meurt 2 ans après. On va dire dans la pièce, on comprend que... Vive le roi. Et c'est la dernière réplique de la mort de Danton de Büchner. Je défie quiconque de trouver que vive le roi, c'est l'apparition de la poésie. Comme ça, je veux dire, on se dit, ah oui,
Surtout avec
les conséquences. Alors Solan, il nous dit, vive le roi, c'est l'apparition de la poésie, donc c'est une contre-parole, c'est la parole qui casse le fil. Et cette contre-parole, c'est d'abord un cri, un nom. Voilà, un nom.
Le nom à quoi ?
Alors, un nom.
N-O-N.
Oui.
Hein ? N-O-N.
N-O-N. N-O-N, oui, oui, pas N-O-N. Pour Célan, c'est très clair. C'est un nom à la barbarie nazie. C'est un nom à la barbarie. C'est un nom à... Voilà, c'est... Mais dans ce nom, c'est ça qui... Il y a un suicide de la personne. En allemand, c'est mort libre, mot à mot. Suicide. Freitod, mort libre.
Et ce qu'il dit, c'est un acte de liberté.
Et c'est la mort. Pour elle. Mais en même temps, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est la première apparition de la poésie. Il dit non. Contre-parole. Et la deuxième apparition de la poésie, après qu'il ait cherché dans Lenz, la nouvelle de Büchner, c'est quand Büchner dit de Lenz, il lui était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur la tête. Il lui était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur la tête. Et donc là, Solan, tout d'un coup, nous dit, extraordinaire, il va encore plus loin que vive le roi. Là, carrément, c'est la renverse. C'est quelqu'un qui... C'est la folie, hein. Non mais c'est le personnage préféré de Solan, c'était le fou du roi Lear. Donc c'est la folie, et puis c'est la renverse, et donc c'est la renverse du souffle aussi. Voilà. Et cette renverse-là, c'est ce qu'il va essayer de faire avec les mots, de renverser les mots, c'est-à-dire d'avoir une action sur la langue allemande. Le projet esthétique de Solan, c'est prendre la langue allemande, et je dirais... presque la nettoyer, la laver de ces 15 ans de nazisme, où la vocabulaire avait changé, puisqu'on prenait des mots pour deux. Oui. Donc le projet esthétique de Célan, c'est celui-là. C'est pas le seul, hein. Il y a d'autres auteurs. Mais, contrairement à d'autres, par exemple le juif, lui a continué d'écrire en allemand, même s'il est venu vivre en France. Il a continué à écrire en allemand et il a fait un travail sur la langue allemande énorme. C'est-à-dire que, bon, Jean-Pierre Lefebvre en parle mieux, mais tout d'un coup, dans la poésie de Célan, le ciel, c'est pas que le ciel qu'on voit, c'est la tombe. C'est la tombe des Juifs.
Ça, c'est dans un poème, d'ailleurs, explicitement.
Un mot, étoile, il va prendre les mots allemands, il va ouvrir les sens. Le sens des mots. Ouvrir. Pour créer une autre, voilà. Pour libérer les mots. Il y a quelque chose comme ça. De, de, C'est pourquoi on dit que c'est sans doute un des plus grands poètes de la deuxième moitié du XXe, parce qu'il a fait un travail sur la langue énorme. Et il est évidemment, comme beaucoup de poètes comme lui, hein, Mallarmé fait la même chose, c'est-à-dire il est allé de poèmes assez figuratifs à évidemment de plus en plus de poèmes dont on peut dire à première vue qu'ils sont un peu abstraits. Oui. Voilà. Mais et alors ça, c'est très intéressant aussi, cette histoire de... Il y a une partie de la poésie de Celan qui est aussi très intéressante pour les acteurs, pour le travail de l'acteur. C'est-à-dire qu'on voit bien, ça ne raconte plus quelque chose. Et Fugue de mort raconte encore quelque chose. Ça ne raconte plus quelque chose. Ça ne figure plus quelque chose. Ça ne représente, ça n'imite plus, mimesis, quelque chose. On passe dans un paysage, un texte qui est comme un paysage. C'est le cas de beaucoup de ses poèmes. On ne reconnaît pas. Et donc, qu'est-ce que nous demande le poème? La première chose que nous demandons, c'est notre attention à quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est le premier effet.
Le texte de Celan, Le Méridien, c'est quasiment un texte lacanien, parce que dans le sens où, effectivement, ça nous invite, on ne comprend pas au premier abord, pas forcément, mais ça nous invite à un déplacement. Alors je crois que vous aviez eu cette expression, c'est pouvoir aller dans un autre paysage ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est une invitation. On y va ou on n'y va pas, mais en tout cas, on peut y aller. Ça fait c'est un déplacement.
C'est ça, ce qui est beau, de mettre cette poésie, par exemple, de dire cette poésie sur une scène, évidemment, je vois dans le public, il y a des gens qui sont comme ça, quoi. C'est-à-dire, je vois bien que c'est tout de suite, je comprends pas. Donc, je comprends pas, ça peut être, je comprends pas, mais c'est pas grave. Ça peut être, je comprends pas, c'est pas pour moi. Je comprends pas, c'est de la merde. Non, mais c'est vrai. Après, il y a les degrés de « je comprends pas ».
Ou ça peut être « je comprends pas » et « je veux le texte après ».
Ouais. Ou « je comprends pas » et « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» quoi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi pour un acteur. C'est-à-dire que l'opération que fait Celan, elle a voilà, un dialogue intéressant. Voilà, accepter d'être déplacé. Accepter d'être déplacé, de ne pas reconnaître... Et à partir de là, on travaille, je dirais. Il y a un truc comme ça. À partir de là, si vous êtes d'accord pour rentrer dans ce paysage que vous ne reconnaissez pas tout de suite, donc de dire, je ne comprends pas, mais ce n'est surtout pas le problème, en fait. Je me laisse un peu aller, je me laisse un peu faire, je ne sais pas. J'ouvre mon attention, voilà, ou j'ouvre mon écoute. Ça, c'est génial. Parce que pour moi, acteur, c'est un truc aussi encore très concret. D'accord, je comprends ouvrir l'écoute. Je vois bien. Voilà. Et ça ne se fait, pardon, jamais en disant à des spectateurs, écoutez bien, hein, parce que là, personne n'écoute. Donc, c'est toujours cette histoire de l'indirect. C'est indirect. Exactement, parce que dans le même temps où le poème dit non, il est aussi, et spécialement chez Celan, comme dit Jackson, dialogique. C'est-à-dire que tout poème chez Celan est un dialogue. Alors comme il le dit, c'est souvent un dialogue désespéré, mais c'est un dialogue avec l'autre. Alors qu'est-ce que c'est l'autre ?
Il est traduit parfois étranger autre ou autre étranger. C'est... Ouais, alors, mais
après,
c'est...
après c'est... en allemand, il y a deux étrangers. Il y a, oui. Un Heinrich,
oui.
C'est ça enfin, le, oui, qui est le, temps familier.
Oui, oui, oui.
Et puis Fremde,
c'est ça.
Qui est vraiment l'étranger. Alors évidemment, lui il joue sur les deux termes. Et nous, en français, on est embêtés parce qu'on n'a que étranger. Donc on n'a pas de couleur différente pour les deux étrangers. Donc ça, par exemple, dans le texte, quand on l'a adapté, c'est un truc qui reste. Et je sais que c'est compliqué. Et voilà. Oui. Mais donc l'autre, ouais, l'autre. Et l'autre, c'est peut-être le lecteur, c'est peut-être. J'aime bien. Il a l'expression cela. Il reprend l'expression à Mandelstam. Le poème, c'est comme une bouteille à la mer. Un poème, c'est comme un envoi, comme ça, mais qui est toujours dans une adresse. Voilà. Qui, comme il dit, qui interroge celui qui apparaît. Voilà. Et il dit dans ce dialogue, ce que le poème laisse parler, c'est ce que l'autre a de plus proprement sien, son temps. Alors moi, j'ai traduit comme son temps, c'est-à-dire que où, si je lis un poème de Celan, il ne va pas s'adresser à ma compréhension immédiate, mais à mon attention. Donc il va m'ouvrir du temps, le poème. Il va m'ouvrir un temps, il va m'ouvrir une temporalité qui ne sera pas immédiate, qui sera un peu... Et déjà, juste de me dire, d'accord, j'accepte de rentrer dedans, c'est déjà un temps concret. Que l'on crée. Enfin, concret. Que l'on crée. Créer du temps. Par exemple, à un moment, je disais tout le temps, je pense, c'est aussi une définition de l'acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui crée du temps. C'est-à-dire, rendre la parole sonore, activer une écoute, faire qu'une salle puisse être dans une écoute attentive, suspendue, je dirais. C'est ça, hein, contraire. Il n'y a rien de plus beau, ça arrive une fois sur 20. Les représentations théâtrales où on est sur le plateau, et il y en a une samedi là, à 17h, au point, du début jusqu'à la fin, tout est suspendu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, parce qu'évidemment, en tant qu'acteur, on ne travaille pas seul sur sa scène, mais on travaille concrètement avec l'écoute et avec la salle différente chaque soir, composée de gens différents. Quelqu'un qui n'écoute pas du tout dans une salle, même si les autres ne le voient pas, ça a une action très, 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 très concrète sur la salle. C'est-à-dire, travailler avec la salle, c'est pas un truc de petit malin. C'est un truc très concret. Il n'y a pas de théâtre sans ça. Il n'y a pas d'écriture orale, il n'y a pas d'écriture à vue. Parce qu'on n'a pas parlé de l'écriture à vue, mais comment la parole arrive, donc c'est comment elle s'écrit et comment elle s'écrit sur le moment. C'est-à-dire même si on a appris un texte par cœur, dans le meilleur des cas, il faut que chaque soir, ça soit comme hein, l'acte doit rester vierge, même répété. Quoi. C'est-à-dire, faut que ça s'écrive à vue, donc avec les gens, avec le public. Et je disais ça parce qu'au moment où je disais, qu'est-ce que c'est être acteur? C'est créer du temps. Voilà, c'est créer du temps parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire sur un plateau? On essaye de créer du présent et un présent qu'on essaie de densifier. C'est-à-dire créer du présent, c'est jamais oublier et jamais faire semblant que ça, qu'il y a un réel présent du soir de la représentation. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un trou, qu'un acteur a un trou de texte, ça c'est à tous les coups on gagne, l'attention de la salle fait pas. Mais immédiatement. C'est un truc, alors ça marche à chaque fois. Il y a un trou, il y a un arrêt de la parole. Au moment où on sent bien que ça s'arrête bizarrement, voilà, et là, tout le monde écoute. C'est absolument fascinant. C'est pourquoi certains acteurs ont pu dire ou peuvent dire, je cherche l'accident. Je cherche la chose qui, chaque soir, va faire qu'on est au présent ce soir-là.
ce que voulait faire Patrick Lelay, enfin, l'ancien patron, je ne sais pas, peut-être toujours pas de TF1, qui lui prenait du temps de cerveau disponible, et vous en créez.
Non, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que il y a une façon d'acte, pour revenir à cette sorte de parole où la première émotion, c'est l'arrivée de la parole, et une façon d'activer la parole qui crée un temps présent, voilà, qui est aussi une chose que j'imagine qu'on vient chercher au théâtre, qu'on a envie de vivre. Voilà. Parce que la parole, évidemment, c'est du temps. Parce que c'est, encore une fois, c'est une histoire d'intensité. C'est une histoire de...
Je voulais, après le temps, vous interroger sur l'espace. C'est quand même un élément essentiel des spectacles que vous avez montés. Donc vous avez évoqué la quasi-topologie du méridien, hein, avec les renversements, les détournements, enfin tout ce qui fait que... puis le méridien lui-même définit un espace et qu'il faut le subvertir. Donc ça, c'est mais vous l'avez déjà fait avec Danet. Bon, ça commence, je crois que je vous l'avais rappelé, par la carte de l'école communale qui permet comme ça de donner corps à l'imaginaire d'un enfant sous cette forme très particulière qui est la carte. Et je dirais que sa salle aussi, c'est le médecin de campagne de John Berger, puisque dans les premières lignes du livre, il est question de sa fascination pour Conrad, et il a été dans la Navy, etc. Donc là encore, il y a une question d'espace. Donc vous avez choisi trois textes très différents, mais où quand même la question de l'espace se pose pour vous en tant que vous allez les jouer. Donc je ne sais pas,
Alors, j'entends de façon différente. Alors, j'entends la question de la carte, la question de l'espace. Alors, si je pense espace, j'ai l'impression, par exemple, Solan, c'est quelqu'un qui... Solan, il spatialise l'écriture de Büchner. C'est-à-dire que quand il nous parle de Büchner, on arpente le texte de Büchner. Il y a une marche. Il y a une marche dans un paysage. Il y a quelqu'un qui marche, ça c'est fondamental. C'est fondamental pour la transmission. C'est-à-dire que si on veut transmettre quelque chose, si on veut transmettre par exemple ce texte de Celan, je pense qu'on est le mot marche est très important. C'est-à-dire on avance dans un paysage. Je pense à la spatialisation de l'écriture. Ça aussi c'est une chose très très importante quand on joue, quand on sent que l'écriture se spatialise, arrive dans un espace. Hein. Encore une fois, que c'est pas qu'elle est débarrassée du sens ou de son intentionnalité, voilà, ou de ses intentions, de son message. Donc il y a une marche de Celan dans le texte, et il faut qu'on accepte d'aller avec lui dans cette marche, pas après pas, et pas après pas, pas à pas. Ça veut dire ne rien masquer. Ça veut dire ne rien masquer des impasses de la pensée. Ça veut dire ne rien masquer des fulgurances de la pensée. Ça veut dire aller partout sans rien masquer, sans tricher. Et si on avance comme ça, pas à pas, voilà, ben on peut prendre les gens par la main et dire « Ok, on va faire ce voyage. Ça va être un peu difficile. Des fois, il va y avoir des petites montées difficiles. » Mais peut-être qu'au final, quand on sera en haut de la montagne, ben on aura bien été content d'avoir fait ce chemin. Voilà. Parce que, je pourrais dire aussi, la pensée au théâtre, mais même pas au théâtre d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, je la vois comme ça, c'est comme un chemin. C'est comme un chemin qu'on emprunte. C'est comme ça qu'on la passe. Comme ça qu'on devient passeur d'une pensée pour les autres. C'est quand on se met en chemin. Voilà. Le mouvement de la pensée a un mouvement, c'est ce mouvement-là qui est très précieux pour un acteur. C'est de piger le mouvement. C'est ça le truc. C'est de piger la danse de la pensée. Voilà. Comment est-ce que ça danse? Comment est-ce que à chaque fois, du corps va pouvoir arriver là-dedans, en fait.
Justement, je me permets de rebondir là-dessus, parce qu'il y a un moment du spectacle que je trouvais saisissant, où Célan cherche donc le moment, c'est comme ça que j'ai entendu, de contre-parole de Lenz. C'est là où il tombe, ouais, sur cette phrase que vous avez citée tout à l'heure. Simplement, il lui était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur la tête. Et là, vous jouez une espèce de je sais pas comment dire, de jubilation de Célan à trouver ce moment-là.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a
poussé à ça?
Ouais, ouais.
Là où il y a la danse,
ouais.
Je vous dis en vrai. On prenait des cours avec Bertrand Badiou, donc, qui est spécialiste de Célan à l'École Normale Sup. Il nous avait donc proposé de faire des petits séminaires privés pour nous, sur le Méridien, de commentaires un peu sauvages du texte. Et puis, voilà, et à chaque fois, ça durait 5 heures. Et il y a un moment où on était... voilà. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, donc on avait des cahiers, on notait, enfin on était vraiment revenus à l'école et tout, on notait. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai mis en gros sur mon cahier, il faut faire la danse de Rabbi Jacob. Faire la danse de Rabbi Jacob. Bon. Alors oui. Parce que après, le souci très technique qu'on a sur ce type de spectacle à partir de textes qui ne sont pas des textes de théâtre, c'est que tout est possible au départ. Il n'y a pas un espace mieux qu'un autre, ça ne se passe pas dans une chambre, ça ne se passe pas dans un parc, ça se passe, on ne sait même pas où, puisque de toute façon, c'est un discours bon, à Darmstadt. Alors, on pourrait le faire à Darmstadt en 1960, mais ça, on serait dans l'imitation, dans la reproduction. Et on a vu que c'était pas très intéressant. Et puis moi, j'aurais fait Paul Celan. J'aurais fait Paul Celan. Voilà. Pourquoi je dis ça? La danse. Et dans ce type de spectacle, évidemment, il y a un moment où il faut qu'on invente les pauses, il faut qu'on invente le rythme, enfin, il faut tout inventer. Donc on dit, à un moment, c'est bien qu'il y ait des respirations, comme on dit en répétition à chaque fois. On n'a pas trouvé la respiration et comment on fait. Donc évidemment, l'idée de la danse, c'était l'idée très simple et très joyeuse de quelqu'un qui découvre, comme voilà, il lui était parfois désagréable de ne pas pouvoir. Ok, ça va encore plus loin que lui. Il y a une vraie émotion, il y a une vraie. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en jeu. Donc la danse, et évidemment. Moi, j'avais toujours en tête l'idée de la folie, enfin de la folie douce, de cette renverse. Là, par exemple, j'aurais été un vrai acrobate, il y aurait eu un truc magnifique à faire. Pas seulement se mettre sur les mains à la renverse, mais je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, de tourner, quoi, comme une toupie. Enfin, c'est ça, en fait, le mouvement. En vrai, c'est ça qu'il dit. C'est cette beauté de la chose, là. C'est comme ça, brut. Lenz, il veut marcher sur la tête. Il veut marcher sur la tête. Il a le ciel en abîme sous lui. Donc la danse est une façon de faire travailler cette exultation. Mais bon, je ne pouvais pas faire autre chose. Enfin, j'aurais aimé aller plus loin, sans doute, dans une chose peut-être même un peu plus bizarre. En fait, bizarre. Donc c'est pour ça, après, j'ai associé Rabbi Jacob. Je me suis dit, si on fait Rabbi Jacob, ça va être très bizarre. Non, mais dans le sens, il est fou, celui-là. Il est fou, celui-là. Voilà. Et puis, en fait, après, on est parti des mouvements de Rabbi Jacob, mais comme on ne sait pas du tout la musique de Rabbi Jacob, bon, voilà. Mais il y avait cette idée... parce que, voilà, je parlais tout à l'heure de la marche. C'est quelqu'un qui... Il rentre dans le texte, voilà. Il rentre dans Buchner de la même façon que Serge Danet rentrait dans les films. C'est-à-dire sa meilleure critique qui est sur Stalker de Tarkovsky. Il rentre dans le film. Il commente le film en jouant avec, en partant du verbe to stalk, quoi. Marcher à l'affût. stalker, marcher à l'affût. Et il fait sa critique là-dessus. Et on voit bien qu'il est physiquement avec son objet. Et Solan, il est physiquement avec Büchner, physiquement. Et donc, voilà, donc après, c'est ça. Si on suit ça, on est juste, quoi. On est...
Non, allez-y.
Je vais rester un peu juste là pour dans... Ça m'y fait... Oui, vous vouliez rajouter. Non, mais allez-y.
Non, je repensais à la carte.
Oui.
Non, mais parce que je pense à la carte, je pense à l'enfance.
Oui.
Bon. Je pense à la carte, je pense à l'enfance. Mais il y a un truc de l'enfance. Par exemple, je pense chez Solan, et même chez ce médecin, John Sassal, qui disait dans son village anglais, là où il était médecin du village, il était médecin de campagne, il raconte un moment à John Berger que pour se faire accepter de la communauté des villageois, il s'habille un peu différemment. Il fait un peu le mariole, en fait. Il s'habille un peu différemment tous les jours, etc. Et tout ça, c'est dans la perspective du soin, ça qui est génial. C'est dans la perspective de d'intégrer une communauté et de pouvoir au mieux écouter les gens, les malades. Et ce médecin va très très loin là-dedans, puisque lui-même fait dépression sur dépression, tellement il devient de plus en plus... perméable aux angoisses des uns et des autres. Bon. Dit l'enfance, parce qu'il y a quelque chose dans ce geste. Par exemple, Danet, en tant que critique de cinéma, a jamais est toujours resté proche de ce qu'a été sa découverte du cinéma enfant. Je veux dire, il y a quelque chose il y a quelque chose de ça aussi par rapport au travail d'acteur, c'est important, il y a quelque chose de sérieux dans l'enfance et il y a un étonnement. Voilà. L'étonnement, c'est un mot important pour les acteurs. Il y a un étonnement, cette capacité à rester étonné. Voilà. Et c'est lent. Quand il cherche dans Büchner, on voit bien qu'il est toujours prêt à voir surgir la chose jamais entendue, la chose jamais vue. Il est dans cette disposition-là. C'est pas faire l'enfant. C'est pas ça du tout. Je dis l'enfance comme une chose, voilà, évidemment qu'on n'a pas oublié, mais qu'on réactive pour des moments très importants de la vie, je dirais. Et ce qu'on réactive, c'est cette faculté de s'étonner et d'être aussi dans cette attente de la chose, voilà, merveilleuse, qui peut surgir encore, voilà. Quelque chose comme ça, et je dis l'étonnement, c'est un mot très brechtien en fait. Je dis, c'est vachement intéressant pour les acteurs, parce qu'on parlait tout à l'heure de la parole, de comment arrive la parole, que le premier événement, la première émotion, c'est l'arrivée de la parole. Et on pourrait dire aussi que quand on joue un texte sur un plateau, eh ben, il faut être toujours dans l'étonnement de ce qu'on dit, d'activer cet étonnement. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, ça parle. Si on prend une bonne pièce classique, alors qu'on nous a beaucoup appris à travailler à partir de caractère, de psychologie, mais une bonne pièce classique, la seule chose qui a à jouer, c'est ce qu'on appelle les situations dans lesquelles sont prises les personnages. Quand on joue la situation, on ne réfléchit pas, la parole arrive comme elle peut. Même si c'est des Alexandrins. Voilà. Mais c'est toujours l'idée d'être comme ça peut. Et dans l'étonnement. C'est-à-dire dans... J'ai fait un bruit. Ah oui, j'ai fait un bruit, c'est ma parole. C'est ma voix. J'ai parlé. Bon. Il ne faut pas tout faire comme ça. Mais... C'est le ressort très, très intérieur, en fait.
C'est exactement le mot de rapport à ce qu'il appelle l'ouvert.
Et c'est là où on parle de l'étonnement
par rapport à l'ouvert.
Eh oui, complètement. Non, l'étonnement, c'est... Vous voyez, tout à l'heure, c'était dire un texte comme... Enfin, en l'inventant, quoi. Voilà. En inventant toujours. comme si, encore une fois, comme si on écrivait à vue, quoi.
Un autre lien que je voulais vous proposer et que j'ai remarqué entre les trois spectacles, entre ces trois, puisqu'ils ont quand même une spécificité, quelque chose qui les rassemble, c'est que d'abord vous les avez choisis un peu comme des défis et puis jouer seul, et c'est quand même la question de la mort qui vient. Vous parliez de l'étonnement de l'enfance, mais à terme c'est la question de la mort qui est là présente. Vous Danet est mourant, il est quand même très très malade. Je sais pas si on peut parler de suicide, mais enfin bon, c'est une forme en tout cas. Célan va se suicider, lui, en se jetant dans la Seine. Et sa salle aussi s'est suicidée quelques années après. Vous évoquez les épisodes dépressifs, etc. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qui fait contraste entre ce qui est justement l'étonnement, l'enfance, qu'on perçoit, que vous faites passer aussi dans ces textes, et c'est quand même une issue tragique. Je ne sais pas comment dire.
Mais tout à fait. Alors là, je serais bien... Vous êtes la deuxième personne qui me dit ça. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc je serais un peu... C'est difficile pour moi de rebondir sur la mort. Là. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai, mais c'est étrange, hein, parce que je pense que c'est très vrai, je pense, et que c'est sans doute très profondément ancré dans ces choix de texte, mais il se trouve que je me suis jamais dit effectivement. C'est une amie, une très, très bonne amie qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, oui, bah d'accord. Donc j'ai fait une espèce de trilogie sur la mort. Non, mais...
C'est pas forcément sur la mort.
Oui.
C'est la relation de l'enfance et de l'étonnement à...
Tout à fait.
Ce qui vient s'inscrire après coup.
Tout à fait.
Dans ses parcours.
Mais je pourrais dire, par exemple,
parce que la question, pardon,
ouais.
Juste la question, comment s'appelle-t-il, sa salle, on apprend, John Berger apprend qu'il s'est suicidé, mais bien après,
et surtout John m'avait demandé de ne pas parler du suicide de sa salle dans le spectacle, ouais. il voulait pas qu'on dise cette dernière. Non, mais je sais pas pourquoi, il y a quelques temps, mais je saurais pas peut-être trop le... Je pensais le théâtre, ça va avec le deuil, en fait. Il y a un truc comme ça avec le... Je sais pas. C'était plus clair il y a quelques temps pour moi, cette chose-là, que... Non, oui, parce que quand même, parce que c'est quand même un endroit, différemment du cinéma, mais où on fait parler des morts beaucoup quand même, si on réfléchit. Non, c'est vrai, on joue des auteurs morts, parfois on joue des personnages dont parlent ces auteurs qui ont vraiment existé en mort. On fait revivre... C'était très troublant, Serge Danet, quand j'ai joué Serge Danet. Puisqu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui le connaissaient, qui sont venus voir le spectacle. Et même Serge Toubiana m'avait dit, quand il dirigeait la Cinémathèque à l'époque, et j'avais fait une rencontre avec lui, il m'avait dit... Donc on ne se connaissait pas. Et alors pour les gens qui sont un peu liés au cinéma ou qui font du cinéma, le théâtre, c'est très compliqué, quoi. Ça fait peur, c'est compliqué, les gens parlent fort, il y a un problème, c'est pas normal. Et donc Toubiana, il m'avait regardé avec des yeux ronds, vous allez faire... C'est son ami, vraiment. Faire un spectacle d'après les paroles de Serge, d'accord. Bon, bah, donc vous allez vous mettre quoi, des lunettes, une casquette comme lui et tout ça. Et ce qui était très frappant, c'était que les gens qu'il avait très bien connus venaient voir le spectacle. J'étais exactement comme je suis là, donc pas du tout dans la ressemblance. Donc ils étaient, me disaient qu'ils étaient très très troublés au départ, comme quelqu'un qui avait volé quelque chose, quoi. Il avait volé, je sais pas quoi, une identité, une parole et tout ça. Et après, il retrouvait la personne à travers sa parole et à travers ce dont on parlait tout à l'heure, la pensée en mouvement, l'articulation de sa pensée, la drôlerie de certaines choses, enfin, tout ça, quoi. La vie. La vie qui arrivait dans les mots, comme ça. Voilà. Et là, là, par exemple, sur ce spectacle, je m'étais dit très fortement, ben oui, on fait parler à un mort. Je dis ça parce que comme il y avait des gens qui le connaissaient, c'était évidemment très, très troublant. Et que moi, je n'avais jamais rencontré Serge Danet et que je ne le connaissais pas. Et que je le faisais quand même parler. Bon, voilà. Donc il y a...
Mais ça a à voir avec le deuil.
Alors le deuil, oui. Pourquoi je disais... Oui. Ben parce qu'on fait parler des morts, parce qu'on fait... Je dirais au cinéma, parce qu'il y a ce truc, c'est Cocteau qui dit ça, je crois, ou c'est Godard citant Cocteau, j'ai plus... Le cinéma, c'est la mort au travail, c'est-à-dire que les vrais cinéphiles, c'est des vampires, en fait. C'est des gens qui aiment voir, pour la énième fois, cette actrice qui est morte, mais qui est, et dont l'image est restée. Enfin, il y a quelque chose comme ça de... Bon. Alors au théâtre, il y a un deuil actif. Voilà, ça que je pensais. En fait, le deuil au théâtre, il est actif. Il est dans la vie, en fait. C'est un peu un truc comme ça que je pensais. Où la mort est dans la vie. Par exemple, j'aime bien, à la fin, le dernier poème de Celan parle, puis toi aussi, parle, au nom de la mort, vivant au nom de la mort. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà. Il y a quelque chose de cette... Voilà, c'est ça que je pensais. Le théâtre, c'est un deuil... je sais pas, enfin, un deuil actif, ça veut rien dire, mais bon... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Un deuil en marche, quoi.
Alors, peut-être parce qu'on lâche.
Et puis qu'on réactive tous les jours.
C'est ça, il y a un truc comme ça, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est on est ça. Un peu... Oui, oui. On ne sait pas. Il y a certains moments, moi, je me souviens... Parce qu'on est atteint quand même. Alors, quand j'avais fait le spectacle sur John Cecil, sur le médecin, on avait fait des improvisations où moi, je racontais ce qui m'était arrivé de pépins, de blessures, de trucs comme ça, dans l'exercice de mon travail. Et non, et je racontais une dépression que j'avais faite très grave, enfin très grave, pas du tout très grave, enfin, ça allait, mais bon. Une grosse dépression. Pendant que je jouais le roi Lear. Et c'était vraiment un problème parce que j'avais 8 mois de tournée. Et c'était 4 heures tous les soirs. Et c'était le roi Lear. Donc bon, ben. C'est l'histoire d'une chute quand même.
Vous jouiez Lear.
Hein ?
Lear.
Je jouais Lear. Ouais, ouais. On l'avait créé à la Cour d'honneur à Avignon. Je jouais Lear avec des gens qui avaient 40 ans. Le paradoxe de Lear, c'est que c'est un vieux monsieur dans la pièce. Le paradoxe, c'est pour le jouer, on ne peut pas jouer à 70 ans. Ouais. T'en tiens pas le choc. Non, il a énormément de vitalité. Non, mais voilà, je veux dire, par exemple, tout d'un coup, je ne savais plus au moment de cette dépression qu'est-ce qui m'atteignait de la vie ou du roi Lear. Il y avait un drôle de mélange. D'ailleurs, je faisais lapsus sur lapsus dans le spectacle. Mais là, on ne sait plus trop. Il y a des zones.
Alors, il y a peut-être des questions. Oui.
Moi, j'ai trouvé un autre point commun dans les trois pièces.
Ouais.
Le premier, ça interroge l'art cinématographique. Le second, c'est l'art médical, parce que c'est pas un métier, justement, c'est un art. On dirait la même chose de psychanalyse, c'est l'exercice d'un art. Et puis là, en quoi la poésie subvertit-elle l'art ? Donc à chaque fois, prêter votre corps à ça, mm-hmm. cette interrogation, mm-hmm. en artiste. Donc c'est mieux que... c'est mieux que comédien ou acteur.
Oui,
oui, oui, oui.
Charlie Chaplin, finalement. Il y a un côté de Charlie Chaplin aussi dans vos trois spectacles de justesse.
Oui. Par rapport aux propos et tout ça, oui, enfin, dans les spectacles.
Et par rapport à l'interrogation permanente sur ce qu'est l'humain, finalement.
Oui, 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 mais, oui, oui, tout à fait. Mais en prenant des, à chaque fois un sujet, voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, oui.
Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de penser autour du méridien, d'abord à Baselitz et à l'homme mis la tête en bas, et puis surtout au dernier roman de Grossman, je ne sais pas si
c'est pas lui.
Un cheval entre dans un bar, où le protagoniste, enfin le Dovalé, l'homme supposé être un comique, mais qui est d'une grande poésie et qui essaye de rendre compte de ce qu'est la réalité d'Israël, et d'un garçon qui ne pouvait marcher que sur les mains. Et il y a tout un passage comme ça, subvertit son histoire, essayant de faire sourire sa mère, mais c'est l'homme qui peut marcher sur les
mains. Oui, c'est ça.
C'est la folie, finalement. C'est une sorte de retournement pour faire exister la vie.
Mais il y a... Ouais, la vie, mais... Non, mais il y a ce truc au début, que je dis au début du Méridien, en racontant la petite histoire. Là.
Ouais.
Oui, je ne comprends rien. Mais si, regarde, c'est beau. Oui, il y a cette envie de dire, regardez, l'art, c'est vraiment du côté de la vie, au sens où c'est pas du côté du patrimoine.
Ça.
Qu'est-ce que c'est
du truc? Je sais pas, sans trop réfléchir, je disais juste qu'est-ce que je fous là. C'est d'abord, c'est intéressant que vous repreniez ça parce que je crois que je l'ai pris chez Jean Houry. Je crois qu'il en parle dans son dialogue avec Marie de Pusset. À quelle heure passe le train? Et ça me fait rire, moi. Ça me fait rire, en fait. Et tout d'un coup, j'ai pris ça en me disant, mais c'est... Je travaillais le Roi Lear et je me disais, mais de toute façon, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut être comme ça sur le plateau. Et donc, le truc, je ne savais pas ce que c'était. Et je ne sais pas, c'était l'idée d'avancer vers les gens, les bras ballants. Et qu'est-ce que je fous là, tout le temps? Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Parce que ce qui est frappant, c'est très bien passé comment dans votre jeu incarné, mais justement
de quoi
ce truc.
Ouais.
Retenez l'attention, de la moitié, voire de la moitié, mais il y a toujours des gens pour retenir l'attention. Mais ça se passe aussi avec le texte, avec certains textes. Je ne comprends rien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il y a quelque chose de stimulant, peut-être pas mais comment vous le dites?
Qu'est-ce qui, dans le texte, retient l'attention?
Quand on ne comprend rien.
Quand on ne comprend rien.
Oui, qu'est-ce qui fait qu'on est retenu? C'est ça.
Donc là, on parle de Solan.
Oui.
Pas mal.
Ah oui.
Thank you.
C'est sûr qu'il y a quelque chose du texte opère. C'est horrible parce que le mot qui me vient, et c'est pas celui que je voudrais, c'est beauté.
Au bout de la vérité, on va décliner les idéaux.
Ouais.
C'est pas ça.
Non. Vous, vous le savez ou pas?
Non.
Non, mais c'est par exemple, je sais pas, on pourrait dans les gens, ils me disent les poèmes, ça fait du bien. Et il y a un grand poème, par exemple, qui n'est pas qu'on ne comprend pas, on ne peut pas saisir comme ça. Et donc ça retient quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc toujours?
Bon, l'accord a peut-être une réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça ne veut pas dire que la comprendre, la jouissance.
Je ne sais pas. Du texte,
ce qui retient
l'attention.
C'est le point d'interrogation qui retient. Enfin, qu'est-ce qui fait que le point d'interrogation retient certains et pas d'autres? Mais...
Non, ce qui retient pas, on ne tient plus.
Oui, pourquoi on est accroché par une énigme?
Peut-être.
Ce qui est humain bien, est-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que vous avez une idée, que selon exposé là, son art politique, et qu'il vous a semblé que cela correspondait à l'art de la femme. Est-ce que, en lisant ce texte, lors de votre première rencontre avec ce texte, vous avez tout de suite eu cette idée-là? Est-ce que c'est ça qui vous a accroché? Ou est-ce que c'est juste qu'il vous...
C'est pas venu bien après, mais c'est pas la première chose qui m'a accroché, je crois. Je crois que ce qui m'a accroché, c'est la... fulgurance, je ne sais pas. Je reviens sur la... Oui, quelque chose d'extrêmement... fulgurant et que je ne reconnaissais pas. Que je ne reconnaissais pas.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le déplacement.
C'est ça.
Pardon, vas-y.
C'est exactement ce qu'il vise.
Oui.
Dit de ce qu'il veut. Un poème doit...
Et je dis fulgurance parce qu'il y a dans ce texte des moments qu'on lit normalement et tout d'un coup, il y a comme un... Je sais pas, une fulgurance, voilà. Une pensée qui part. Une pensée qui se... Voilà, qui arrive comme ça. Qui part comme ça. C'est comme
c'est comme une substance en fait qui vous arrive. C'est comme quelque chose de qui se décrocherait du livre, quoi. Qui... C'est le souvenir que j'ai de.
Est-ce que ça a à voir avec
l'expression la chose qui va vite?
La chose qui va vite là dehors, ouais. Va désormais encore plus vite. Mais ça, je crois que la chose qui va vite là-dehors, qui va désormais encore plus vite, le poème sait cela, mais il garde obstinément le cap sur cette autre. Je crois que c'est la vitesse de la technique, de la machine, de la vitesse de la vie. Et le poème, lui, prend son temps. Il garde le cap sur l'autre, sans se laisser...
Il y a cette idée de la poignée de main aussi du poème,
de
Célan qui s'adresse à un ami disant alors, le poème est comme une poignée de main et la poignée de main qui vient libérer. Alors il y a un effet comme ça aussi dans le...
Alors, il y a deux choses.
Oui.
Le truc de je vous libère, c'est une histoire. Le truc de je vous libère, qu'on a rajouté à la fin, c'est une histoire vraie de Solon, qui en Allemagne faisait des lectures de poèmes, et le matin, il est dans un hôtel au petit déjeuner. Avec Solon, il y a André de Boucher, un poète, quelqu'un d'autre.
John Jackson.
Exactement. Mm. Vous connaissez l'histoire ?
Oui. C'est à la fin d'un livre de John Jackson. Il raconte cette anecdote, oui.
Et à côté d'eux, il y a Martin Walser, un auteur allemand, suisse, qui est à côté d'eux à la salle du TG. Et ils sont séparés par une espèce de grillage en bois, un paravent, quoi. Et Walser voit Solon à travers le truc et lui dit bonjour. Et Solon se lève, lui, contourne le paravent, vient serrer la main de Walser en disant « Je vous libère ». Donc ça vient de là. Mmh. Et la poignée de main, c'est... c'est le poème exactement comme signe, comme clin d'œil, comme signe fait à l'autre, comme serment, comme quelque chose qui sert... comme ça. Voilà. Ça, c'est merveilleux.
Et dans le texte, en tout cas ce qui m'en reste dans la façon dont vous l'interprétez, il y a le poète qui court après, enfin, le poème qui précède celui qui le crée, et puis encore devant celui qui le reçoit. C'est-à-dire c'est même pas là. Il y a trois éléments, mais dans l'espace et disjoints
tout à
qui
fait.
Sont faits. Enfin, c'est comme se rencontrer, mais moi je trouve ça encore plus beau que la poignée de main, parce qu'il y a des pointillés entre les
trois. Oui, c'est vrai,
tout à fait. Les trois.
Tout à fait. Je cherche.
J'ai quand même encore une question. Est-ce que vous avez déjà imaginé jouer un texte de la
Non. En fait. En vrai, pour vous répondre, dans Luciole, il n'y avait pas Lacan, il y avait Clément Rosset sur Lacan. Vous connaissez le texte de Clément Rosset. Je me rappelle tout bien. Et c'était assez drôle. Il va à un séminaire de Lacan, il n'y a pas Lacan, mais il y a des gens qui sont là et qui lui disent, vous ne savez pas, Lacan est en vacances. Oui. Et il dit j'ai appris plus là dans un séminaire où Lacan n'était pas ici. Oui, figurez-vous que je il y a très longtemps j'ai vu, je ne sais pas, je n'ai jamais retrouvé, je crois que c'est Lacan qui est filmé par Benoît Jacob, c'est possible ça, avec une lampe à côté de lui où il y a.
En télévision.
Et évidemment, moi je vais vous dire, la première fois que j'ai vu ce document, je me suis dit, bon bah ça c'est un truc qu'il faut montrer dans toutes les écoles de théâtre aux acteurs. C'est le premier truc qu'il faut qu'ils voient, c'est ça. Non.
Rémiot, vous connaissez
Rémiot. Oui. Bah oui, j'avais envie de faire ça. C'est la première fois que j'ai entendu ça, j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a, le son, la mobilité de la parole, etc. C'est complètement délirant. C'est délirant. Oui, ça, c'est ça. Oui, oui. Pour la. Non, je Mais pour moi, contrairement à vous, certains séminaires de Lacan, c'est très, très difficile pour moi. Non, c'est pas facile. Non, mais peut-être, j'approche, je ne sais pas.
Mais après avoir lu, moi j'avais lu avant, j'ai vu votre spectacle, je l'ai relu après.
Deux.
Ça m'a paru limpide.
Oui.
En tout cas, tout à coup, après coup, on dit, mais c'est bien sûr, il nous montre ce qu'il y avait.
Oui.
C'est comme les poèmes qu'on a appris en les chantant. Quand on ne peut plus les lire.
C'est vrai.
On se les chante tout le temps après.
Mais en tant que gageur, et puis voilà. Oui, ça serait. Je peux y penser, oui.
Vous en avez tenu d'autres qui n'étaient pas.
Non, c'est moindre. Ouais. Je m'interrogeais sur les séminaires de Jean Houry à Sainte-Anne. Et bon. C'est très beau, pareil, le livre de Jean Houry et Marie de Pucé, c'est très beau.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si on dort.
Alors, après, l'écoute se voit, mais elle ne s'interprète pas forcément de la bonne façon. Très souvent, je vois des gens comme ça. Comme ça, ils ont placé mes là. Après, je les vois applaudir comme des fous. Et des fois, je vois ces gens-là qui viennent m'attendre à la fin en me disant c'est super. Il ben, y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a tous les cas de figure. C'est génial. Il y a tous les cas de figure. Je vois d'abord, donc je vois les gens. Donc, et même si je ne les voyais pas, j'entends. J'entends des silences différents. Chaque jour, chaque soir, et parfois différents au cours d'une même rencontre. Les moments où l'écoute, quand je disais tout à l'heure, dès qu'on a un trou, paf, l'écoute se contracte, quoi. C'est comme une espèce de noyau incandescent, là. Tout est la crête du silence, voilà, la crête du silence. On est sur la crête du silence. On peut être dans un silence, fatigué, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que il y a tellement de variations. Il y a les salles qui partent bas, enfin fatiguées, on ne sait pas trop, etc. Et ça monte, et ça monte ensemble. Ça aussi, c'est un truc. Parce que des fois, ça monte à droite, mais ça ne monte pas à gauche. Ça ne monte pas au fond, ça monte devant. Donc, voilà. Mais sinon, beaucoup à l'oreille, beaucoup à la qualité de. Silence, c'est drôle, hein. Vraiment samedi dernier à 17h. Mais c'était dingue parce que je me suis dit, en jouant, je me disais, mais c'est incroyable parce que c'est, cette écoute me permet de faire plein de trucs. Voilà. Que à d'autres moments, surtout sur ce texte, où je peux encore me dire, si je suis un peu fatigué, oh là là, j'ai peur que. Les gens comprennent pas et tout ça, donc ça aussi c'est un gros danger sur ce texte-là, c'est de, avec la fatigue par exemple, de se mettre à expliquer les choses. Donc ça c'est horrible. De se mettre à expliquer, donc d'être aussi un peu professoral, ou tout d'un coup de tomber dans un truc qui explique en disant aux gens, ouais, regardez, voilà, pas de problème, pas de panique. Mais ça. Dans l'écoute, vous savez, on voit des choses. L'autre fois, vraiment, il y avait deux dames. C'était horrible et drôle à la fois. Enfin, là, maintenant, ça va. Je peux plus m'offusquer de ça, quoi. Et c'est pas qu'elles étaient là. Elles ont commencé comme ça. Deux dames. Alors bon, je me suis dit, voilà, ça doit être des abonnés du rond-point. Ils se sont trompés de salle, quoi. Et elles ont commencé comme ça, elles étaient comme ça. Après, elles ont ouvert les yeux comme ça. Après, il y en a une qui a fait comme ça. Et l'autre, elle a fini comme ça. Et à un moment, elle a eu cette phrase merveilleuse, mais je souffrais. Un autre soir, j'aurais peut-être dit, si vous voulez, sortez, il n'y a pas de problème. Prenez le temps de sortir. Juste un moment, il y en a eu. C'était la souffrance, terrible. Et plus ça avançait, il était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur la tête. C'était un cauchemar. Jusqu'au long poème et tout ça. Et je pensais tout le temps à elle. Et là, c'est bizarre, vous voyez, les aventures des représentations. C'est comme si toute la deuxième partie, je l'avais fait que pour elle. Alors, c'est pas. Je fais léger, un peu vite. Et il y en a une à un moment qui a dit, c'est des sorties, pareil, elle dit, oh, on est mal assis ici. C'est mignon. Elle aurait pu dire, je m'emmerde. Elle dit, oh, mal assis dans cette salle.
Elle ne fait pas partie de celles qui sont venues voir à la fin.
Non. Non, alors là, clairement pas. Non, elles ont dû rentrer.
Oui.
Mais après, il y a eu des spectacles. Attends, le spectacle, ça c'est drôle. Le spectacle que j'avais fait sur Serge Danet, il y avait carrément un moment dans le spectacle, une interaction avec les gens. Il y avait un questionnaire de film, et les gens parlaient. J'ai tout eu, quoi. Il y a eu des représentations où les gens continuaient. Parce qu'après, il y avait encore 20 minutes de texte sur la télévision. Puis les gens qui continuaient à parler, une fois que le texte avait repris, qui continuaient à me poser des questions. Et un jour, j'ai eu une dame, j'avais presque fini ce spectacle, parce que le moment d'interaction, c'était, il y avait des questions qui s'affichaient, enfin pas des questions d'ailleurs, le film de votre enfance, film que tout le monde a aimé sauf moi, film idiot à raconter mais bouleversant à voir, chef d'œuvre que je n'ai jamais vu, enfin, une espèce de questionnaire de cinéphile comme ça, et les questions s'affichaient, et moi je laissais la parole aux gens, et les gens se mettaient à parler, donc à dire des titres de films, voilà, puis ça pouvait, des fois ça dialoguait entre les gens, le film que tout le monde a aimé sauf moi, par exemple, ceux qui disaient les enfants du paradis, on entendait toujours « Oh, c'est pas possible !» Donc il y avait tout ce moment, et après je reprenais la parole. Bon, et donc en gros, tout le monde comprenait. Ça avait repris. Bon, voilà. Puis, un jour, je reprends la parole, et puis personne ne parle. Excusez-moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner la liste des films de Léo McCarey? Comme si j'étais devenu monsieur cinéma.
Encore d'autres questions? Oui.
Oppose pas vraiment. Il dit que la poésie, c'est le dégagement de l'art. Un pas de côté par rapport à l'art. Ce que je disais tout à l'heure sur la... Disons, il y a une interprétation de Philippe Lacour-Labarthe, qui est un philosophe, et qui dit, en parlant du méridien, parce qu'il y a des gens qui ont commenté le méridien en disant c'est lent, il sépare l'art de la poésie, c'est clair, c'est séparé, c'est deux choses différentes. Et Labarthe, il dit non, et je crois qu'il a raison, c'est-à-dire que la poésie serait une partie de l'art en tant qu'elle s'en dégage, quoi, en tant qu'elle fait un pas de côté. Pour Labarthe, c'est l'idée que la poésie quitte le domaine de l'art, encore une fois, qui est imitation du réel, La poésie ne se veut pas une imitation du réel, mais on va dire, pour aller vite, enfin, vision. La poésie chez Celan, elle est plus du côté de la vision que de l'art, que de l'imitation embellie du beau, du réel. Voilà. Tout à fait. C'est une certaine vision de l'art. C'est la vision, je dirais, traditionnelle, c'est-à-dire celle qui part de la caverne de Platon, d'Aristote, Platon qui dit l'art c'est du faux, etc. Mais c'est l'idée que l'art, oui, représente quelque chose. Mais c'est une certaine idée, tout à fait. La mimésie, c'est Aristote. C'est-à-dire le... La haine de l'art chez Celan, enfin, le rejet de l'art. Alors, il y a ce truc esthétique, on va dire, qu'on essaie de définir. La poésie serait le dégagement, le pas de côté de l'art, le souffle coupé de l'art. Là, il y a la haine de l'art de Büchner. Donc Celan, il dit d'accord à la haine de l'art de Büchner. La haine de l'art de Büchner, c'est très simple, c'est la haine de l'art officiel. Bon, Büchner, l'ennemi, c'est Schiller. Donc, c'est l'art en place, c'est l'art officiel. Et donc, c'est pourquoi Büchner développe son esthétique, sa théorie sur « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie du presque rien. Le visage le plus insignifiant fait une impression plus profonde que le simple sentiment du beau. Voilà. Donc, je vais aller voir la mimique très fine, le naturel de la créature. » C'est ce qui intéresse Büchner et c'est ce qu'il a fait quand il écrit Wojciech, quand il écrit ce qui prend un fait divers, enfin, il raconte pas l'histoire des rois et des rêves. Donc ça, c'est pour Büchner. C'est l'art officiel, mais c'est l'art en tant qu'il aurait eu un rôle dans l'extermination des 6 millions de juifs, dans le régime nazi. C'est l'art en tant qu'il est celui qu'on joue dans les camps d'extermination, qu'on fait jouer par les orchestres juifs pour couvrir les cris des autres. Il y avait pour les nazis un art dégénéré, donc il y avait un art aussi, c'est pas dégénéré, donc il y a eu un art nazi. Et voilà. Donc, quand Celan il dit aux Allemands en 60, l'art, il a écrit Fugue de mort où il dit, jouez plus douce, la mort est un maître d'Allemagne, plus sombre les archers et votre fumée montera vers le ciel. Donc, lui, il y met ça, en tout cas.
On va peut-être s'arrêter bientôt. Est-ce que Claude ou Vicky... Oui, Claude ou Vicky ou...
C'était une soirée déjà qui a apporté beaucoup de choses. Et on peut encore la prolonger un peu au foyer des artistes, qui est au fond là-bas, où un verre de l'amitié vous tend la main, si je puis dire. Et donc, merci à vous. Merci.